14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Que vous a dit exactement Lionel Cardon au téléphone ?
Eh bien, il a tout d'abord commencé par dire « Je suis Lionel Cardon, c'est moi qui ai tué le policier motocycliste hier soir au bois de Boulogne. » Et je vous appelle pour vous dire que si je l'ai tué, c'est parce qu'il m'a menacé avec son arme. Cardon a uniquement parlé sur le drame d'hier soir et n'a répondu à aucune question sur l'affaire Aran.
Bonjour. À l'automne 1983, un certain Lionel Cardon devenait l'ennemi public numéro 1. Cette année-là, pendant 5 semaines, la France abasourdie faisait connaissance avec ce jeune homme de 25 ans au visage d'étudiant, des traits fins, un regard sans colère, des cheveux blonds, une petite barbe. Impossible de penser alors que ce Lionel Cardon est dans la même lignée criminelle qu'un Pierrot le Fou, un tueur sans scrupules. Il vient pourtant de signer une sanglante randonnée, accusé d'avoir tué de sang-froid 3 personnes, un couple de médecins et un policier. Au fil des années, des condamnations et des séjours derrière les barreaux, les témoins, les psychiatres, les juges, les avocats ont tenté de percer le mystère Cardon, lui-même nourrissant son propre mythe avec ses silences, ses colères et ses révoltes. Sincère ou manipulateur, le fait est que toute la vie de Lionel Cardon aura été vouée au crime. Il a aujourd'hui passé plus de temps en prison qu'en liberté. Comment Cardon est devenu l'homme qui a fait trembler la France ? Nous essaierons de répondre à cette question avec notre invité. Dans l'heure du crime, la trajectoire de Lionel Cardon, un cambrioleur récidiviste tombé très tôt dans la délinquance, à qui, à l'automne, va devenir l'homme le plus recherché de France après une macabre découverte dans une maison près de Bordeaux. Ce mardi 11 octobre 1983, peu après 14 heures, la sûreté urbaine de Bordeaux est appelée pour une mort suspecte au château Bel Air, une maison de maître posée dans un petit parc, une chartreuse, comme on dit ici, située dans la banlieue bourgeoise de Pessac. La victime n'est autre que le propriétaire des lieux, François-Xavier Aran, 37 ans, un chirurgien de renom. Ses proches n'arrivaient pas à le joindre, il a été trouvé à l'étage, dans la baignoire, solidement ligoté avec une corde, des nœuds et des liens qui ont fini par l'asphyxier. François-Xavier Aran habitait la demeure avec son épouse Aline, une anesthésiste de 36 ans. Le couple n'avait pas d'enfant. Aline est introuvable. Elle s'est volatilisée. Tout comme la BMW blanche du médecin, un meurtre suivi de la fuite de l'épouse, une séquestration qui aurait tourné au drame, un règlement de compte, l'enlèvement d'une femme médecin. Les hypothèses ne manquent pas dans ce début d'enquête qui s'apparente à une partie de Cluedo. La famille et les amis des époux Aran, totalement dévastés par ce drame, décrivent un couple lumineux, uni, qui partageait les mêmes passions. Pas de tension entre eux. La piste du drame sentimental n'est pas solide, rapidement abandonnée par les policiers. L'objectif est désormais de retrouver au plus vite, vivante, Aline, la disparue. Mercredi 12 octobre, la BMW blanche du couple Aran est découverte à quelques 600 km de Pessac sur une route de campagne près de Nevers. La voiture est vide, mais le spectacle est pour le moins inquiétant. Il y a des traces de sang sur la moquette côté passager. 2 impacts de balles de calibre 7,65 sont repérés dans un siège et dans une portière. Les cartes d'identité des 2 médecins sont retrouvées dans le véhicule. Aline Aran reste introuvable. Un avis de recherche est diffusé. La famille de la disparue lance également un appel au ravisseur par l'intermédiaire de son avocat, maître Philippe Decaune. La ligne téléphonique est mise sous surveillance. Jeudi 20 octobre et vendredi 21 octobre, un homme appelle la famille et demande une rançon. Il va rappeler à plusieurs reprises. La police localise l'origine des appels, des cabines téléphoniques entre la place de la Victoire et la gare Saint-Jean à Bordeaux. L'homme est localisé, pris en filature, puis perdu. Pas question de l'interpeller. On pensait qu'il pourrait conduire les enquêteurs jusqu'à Aline Aran. Un portrait robot est établi. Un individu jeune, au visage mince. Les enquêteurs gardent ce portrait pour eux. Vendredi 28 octobre, après 17 jours de disparition, le corps d'Aline Aran est découvert dans un fossé près de Nevers. L'épouse du chirurgien de Pessac a reçu une balle de 7,65 en plein cœur. Une balle à bout touchant. L'autopsie indique qu'elle est morte au soir de sa disparition et transportée dans la BMW. L'inspecteur principal de la Sûreté, Henri Guidon, fait le lien entre le double meurtre de Pessac et l'enquête qu'il mène sur des cambriolages dans des villas de médecins autour de Bordeaux. Dans l'une d'entre elles, il est tombé sur une carte d'identité dont la photo ressemble étrangement au portrait robot du ravisseur d'Ali Naran. Le suspect est un certain Lionel Cardon, 25 ans. Malgré son jeune âge, c'est déjà un cambrioleur chevronné. Il est sorti de prison 5 mois auparavant après avoir purgé 6 ans de détention pour des braquages. Il n'a pas de sang sur les mains, mais ses empreintes ont bel et bien été découvertes dans la maison du couple Haran. Il devient aussitôt le suspect numéro 1 dans l'affaire du double meurtre. Il doit bientôt pointer pour son contrôle judiciaire. Viendra pas, on ne le saura jamais. Le journal Sud-Ouest publie le portrait robot de l'individu. Son nom est révélé, Lionel Cardon se fond, alors, dans la nature. Heure du crime consacrée aujourd'hui à la trajectoire de Lionel Cardon. À l'automne 1983, ce jeune homme de 25 ans est recherché pour le meurtre d'un couple de médecins près de Bordeaux. Sa réapparition en plein Paris va être tragique. Dans la nuit du 21 au 22 novembre 1983, deux motards de la police nationale patrouillent aux abords de la place de la Concorde à Paris. Ils interpellent un jeune homme circulant sur une petite moto dépourvue de lumière à l'arrière. Celui-ci n'a pas ses papiers ni ceux du deux roues. Il dit les avoir oubliés. Les deux policiers lui demandent de les suivre, direction la pré-fourrière de Ballard, où la moto devra être déposée. Le convoi roule sur les quais de Seine. Le jeune motard prend soudain la fuite à hauteur du pont du Garigliano, direction le bois de Boulogne. La course-poursuite est effrénée, très rapide. L'un des policiers heurte un trottoir et chute. Le deuxième, le brigadier Claude Auchard, parvient à rattraper le fuyard, à le coincer et à le faire tomber aux abords de l'hippodrome de Longchamp. L'individu se relève, sort une arme et tire à 3 reprises sur le motard de la police. Claude Auchard, 35 ans, père de famille, s'écroule, mortellement touché, frappé par des balles de 7,65, le même calibre que celui utilisé pour assassiner Aline Haran. Vu le signalement donné par l'autre policier, le tueur de flics, n'est autre que le dénommé Lionel Cardon. Personne ne sait alors comment va s'achever la tragique équipée de cet homme accusé de 3 meurtres en quelques jours. Seule certitude, avec la mort du brigadier Auchard, il devient l'ennemi public numéro 1. 22 novembre, lendemain de la traque dans le bois de Boulogne, Lionel Cardon téléphone à 2 reprises à l'agence France Presse. Il explique qu'il a tiré pour se protéger, que c'est le motard qui aurait ouvert le feu en premier. Il ne voulait pas l'abattre. Il explique également être totalement étranger à l'affaire de Pessac. Il n'y est pour rien dans la mort du couple de médecins.
J'ai été blessé. Je voulais faire un petit communiqué et entrer à l'affaire avant, cette traumatique affaire.
Oui.
Et dire que je suis totalement étranger quant au déroulement dramatique qui s'en est écoulé.
L'AFP ne va pas diffuser cette information. Le bois de Boulogne est arpenté par des dizaines de policiers armés. Des barrages sont dressés dans les avenues voisines, mais aucune trace de Lionel Cardon. C'est un malfaiteur habitué à trouver de bonnes cachettes et à disparaître. 24 novembre, aux alentours de midi, alors que les policiers s'apprêtent à célébrer les obsèques de leur collègue, le brigadier Auchard, la présence de Lionel Cardon est signalée dans un immeuble du 16e arrondissement, au numéro 59 de la rue Nicolo. C'est la femme de ménage de l'appartement du 4e étage, celui occupé par l'avocate Nicole Dreyfus, qui a discrètement prévenu une voisine. Elle indique qu'un jeune homme avec un pistolet tient 4 personnes en otage dans l'appartement. Elle-même, l'avocate Maître Dreyfus, Patricia, la secrétaire, ainsi qu'une journaliste, Annette Cannes-Cardon, a fait irruption dans la matinée. Il connaît Maître Dreyfus, elle avait plaidé contre lui 2 ans auparavant. Il a exigé qu'on fasse venir sur place la journaliste du Quotidien de Paris, car il est mécontent d'un article le concernant dans l'affaire Haran. Il oblige la secrétaire à joindre Annette Cannes. Celle-ci se rend sans méfiance au cabinet. Lionel Cardon, armé, l'a fait entrer. Il lui explique qu'il n'a pas tué les époux Haran. Il était sur place à Pessac, mais avec des complices, un homme et une femme, ce sont eux qu'il faut rechercher.
À propos de Pessac, il a dit qu'ils étaient plusieurs, que c'est pas lui qui avait tué Aline Haran, qu'il s'agissait bien d'un rapt.
quand ils ont effectivement appris que le docteur Arens s'était étouffé, ils ont pris la décision en collégialité d'exécuter Aline Arens, mais que c'est pas lui qui l'avait fait, qu'ils avaient jeté l'arme. C'est ce qu'il dit, tout le monde était d'accord pour la tuer. Mais il dit que c'est pas lui qui a tiré.
Le malfaiteur souhaite l'arrêt des poursuites contre lui dans ce dossier. Après, il libérera ses otages. Trois policiers sonnent à la porte du cabinet. Cardon entr'ouvre. Des coups de feu claquent. Un brigadier est touché à l'abdomen. Le substitut Laurent Davenas et le patron de l'anti-gang, Claude Cancès, choisissent alors de parlementer. À partir de 15h, Cardon commence à libérer ses otages. La femme de ménage, la secrétaire, puis la journaliste et enfin l'avocate en début de soirée. À la nuit tombée, après 7 heures de pourparlers, l'ennemi public numéro 1 dépose son arme et se rend.
Ça y est, c'est fini. Lionel Cardon vient de se rendre dans l'appartement. Vous le savez, depuis une vingtaine de minutes, il menaçait de se suicider. Finalement, le commissaire Cancès de la brigade de recherche et d'intervention a réussi à le convaincre de jeter son arme. Lionel Cardon vient de se rendre.
Il apparaît, ce Cardon, portant une écharpe blanche. Détail noté par tous les journalistes présents.
Affaire avant, je suis totalement étranger. Quant au déroulement dramatique qui s'en est écoulé, je n'ai rien à voir sur le déroulement. Ce qui a été dit, c'est totalement faux.
Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, la trajectoire de Lionel Cardon, traqué pendant 5 semaines en 1983 pour les meurtres d'un couple de médecins près de Bordeaux, puis d'un policier à Paris. 3 ans plus tard, il comparaît devant une cour d'assises. Ce 9 avril 1986, Lionel Cardon, chevelure blonde, blouson blanc, pose tranquillement dans le box des accusés devant les photographes et les caméras. Flatté et étonné qu'on se presse ainsi autour de lui, il est jugé pour la mort du motard de la police Claude Auchard le 22 novembre 1983 et la prise d'otage de la rue Nicolo. Si ce jour-là il portait un gilet pare-balles et un pistolet, ce n'était pas pour tuer mais pour se défendre, assure ses avocats. Cardon fixe tout le monde d'un regard incisif. Traite au passage Henri Garot, avocat de la partie civile, de facho, un homme instable émotionnellement, très immature selon les psychiatres. Au moment des faits, Cardon avait perdu son jugement. Ce fut la course folle d'un malade désemparé, ajoutent les experts. L'accusation constate tout de même que le 765 qui a tué le brigadier avait déjà tué Aline Arens à Pessac. L'arme m'a été donnée en novembre, assure Cardon, soit après le double meurtre des médecins. L'avocate, prise en otage, affirme que Cardon lui avait dit que sa cavale n'avait plus de sens, ajoutant « Si je survis, je vais retourner en prison, je préfère m'autodétruire ». Cardon ne convainc pas les jurés de sa fragilité, il est condamné à la perpétuité. 2 décembre 86, 8 mois après sa condamnation par la cour d'assises de Paris, Lionel Cardon se présente devant celle de Bordeaux. Il est à nouveau de blanc vêtu. Lors des 4 jours d'audience, l'accusé a le sentiment qu'il est condamné par avance pour les meurtres des époux Arens. Il traite avec mépris le président de la cour, lequel lui rend l'appareil. Cardon apparaît ainsi comme un écorché vif. Il s'exprime peu, indique qu'il était à Pessac avec 2 complices, Patrick et Isabelle, un couple qui connaissait les époux Arens. Ce sont eux qui auraient tué. Mais l'enquête n'a jamais retrouvé cet homme et cette femme. Les avocats de Cardon affirment que ses complices existent. Comment, en effet, un homme seul aurait pu attacher le chirurgien de façon si complexe dans la baignoire, tout en le tenant en joue avec un pistolet? L'accusation répond que Cardon est un solitaire et que seules ses empreintes ont été décelées sur les lieux de ses cambriolages. Il s'insurge, il est expulsé. Coupable du meurtre de Aline Arens, coupable de complicité de meurtre pour son mari, François-Xavier Arens. Et c'est à nouveau la perpétuité. Dans l'heure du crime, la trajectoire de Lionel Cardon, 2 fois condamné à perpétuité pour les meurtres d'un couple de médecins près de Bordeaux et d'un policier à Paris en 1983, il obtient une libération conditionnelle après 20 ans de détention. En cette année 2013, Lionel Cardon quitte sa dernière prison, un univers carcéral où il était considéré comme un détenu difficile. Pas moins de 3 tentatives d'évasion et la prise en otage d'un gardien. En liberté conditionnelle, Cardon a bon espoir de pouvoir monter une salle d'entraînement de boxe, une discipline apprise en détention et qui aurait effacé chez lui son penchant pour la violence. Mais ce projet tombe à l'eau, il est déçu. Le criminel à l'écharpe blanche renoue avec ses démons dans la nuit du 2 2 août 2005, Lionel Cardon et un complice braquent un couple de bijoutiers chez eux à La Barthe-sur-Lèze, en Haute-Garonne. Ils font rouvrir au joaillier sa boutique à Muret, 20 000 euros de butin sous la menace de leurs armes. 20 jours plus tard, un homme portant une cagoule pénètre dans la soirée au domicile de la responsable de la poste à Seyss, Haute-Garonne. Il la menace avec un pistolet et se fait conduire à l'agence. 6 000 euros raflés en espèces. La vidéosurveillance, les empreintes et les témoignages des victimes permettent d'identifier Lionel Cardon, 57 ans. Cardon n'aura respecté que quelques mois les obligations de son régime de semi-liberté. Le revoilà en cavale, habitué à une vie clandestine qu'il connaît par cœur et qui ne l'effraie pas. Il parvient à se faire oublier et à ne jamais se faire remarquer, se déplaçant sous une fausse identité. Le 22 octobre, on retrouve toutefois sa trace près de Nice, où il occupe un petit appartement. Son nom a surgi lors d'une enquête sur un réseau de braqueurs. Après 2 années de traque, les gendarmes de la section de recherche, épaulés par une équipe du GIGN, interpelle le fugitif. L'ex-ennemi public numéro 1 se laisse appréhender en douceur. Il reconnaît les 2 derniers braquages qui lui sont reprochés. Il dit avoir dévalisé le couple de bijoutiers et la chef du bureau de poste pour financer sa salle de boxe. Il est écroué. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la longue dérive de celui qui fut l'ennemi public numéro 1 dans les années 80, Lionel Cardon. Après 20 ans de prison pour 3 meurtres, il avait renoué avec le braquage. Le revoilà donc devant les assises à l'été 2018. Ce 11 juin 2018, Lionel Cardon est attendu devant la cour d'assises de la Haute-Garonne à Toulouse pour vol avec violence, les enlèvements et les séquestrations d'un couple de bijoutiers et d'une postière. Mais seul son complice est présent dans le box. Cardon est absent en raison d'une grève de la faim au cours de laquelle il a perdu 40 kilos. Le détenu à l'isolement à la centrale de Lannemezan souhaite protester contre la révocation de sa liberté conditionnelle. L'un de ses avocats, Édouard Martial, le présente comme un moribond. Il dit avoir dû le porter pour le raccompagner jusque dans sa cellule. Le report du procès est malgré tout refusé. Lionel Cardon est condamné à 20 ans de prison. Lors du procès d'appel qui se tient du 15 octobre 2020 à Albi, Lionel Cardon voit sa peine réduite à 18 ans de détention. Il pourra à nouveau demander une libération conditionnelle à partir du mois d'octobre 2024. Il aura alors 66 ans et devra à nouveau démontrer qu'il en a terminé avec une vie passée sous le signe du crime.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.